Beckett, Duras, Rob Grillet. Pour montrer avec vous aujourd'hui, Henri Van Leer, comment les mots contemporains s'écrivent aussi avec les moyens, les médias, les milieux qui sont ce monde en fonctionnement de la contemporanéité.
On considère souvent que les médias sont un simple moyen de multiplication de l'information. Mais il n'en est rien. En fin de compte, ils instaurent un monde nouveau. Ils créent des réalités artistiques et on pourrait dire, il faut dire, épistémologiques nouvelles. Ainsi, quand dans la dernière bande de Samuel Beckett, The Last Tape, le vieux Krapps, qui est tout seul sur la scène avec sa banane simplement, mais aussi avec son enregistreur, quand il pousse la bobine dans un sens, dans l'autre, quand il la fait avancer, quand il la fait reculer, pour réentendre ce qu'il a dit lui-même, mis sur la bande, il y a 20 ans, 30 ans, et avec les corrections ultérieures, il a, de sa mémoire en tout cas, une perception extraordinairement intensifiée. Alors que dans une des deux mémoires bergsoniennes, on a le sentiment qu'on est vraiment continu, que c'est vraiment un même individu qui était là il y a 30 ans et qui est là aujourd'hui. La manipulation du magnétophone fait percevoir justement le cerveau comme cerveau, avec tous les moments qui se rejoignent, se disjoignent, se recollent de mille façons et nous fait saisir le moi comme étant un collage gigantesque, où on ne sait pas ce qui est important et qui est moins important, et où en tout cas, il n'y a pas de centre. Ainsi, avec ce moi en mille morceaux, et ces objets, ces environnements en mille morceaux, Beckett a pu apparaître comme une sorte d'écrivain de l'absurde. Il n'en est rien. C'est que, dans la mesure même où les fonctionnements deviennent aberrants, eh bien, il y a quelque chose qui, chez Beckett, se dégage et qui peut faire couple avec le fonctionnement. Et c'est la présence. La présence pure. La présence qui, d'ailleurs, ne fait qu'un avec l'absence. Quand la présence devient, la présence pure, ainsi, devient extrêmement intense, elle est en même temps absence. De même que l'absence, quand elle devient très intense, devient présence. En sorte que, c'est chez Beckett, que nous rencontrons peut-être pour la première fois avec beaucoup d'évidence, la nouvelle coupure philosophique qui s'instaure, grosso modo, depuis les années 1960. Rappelons-nous, il y a d'abord eu, du temps des Grecs, la fameuse coupure fondamentale être-non-être, puis, avec le monde chrétien, la coupure fondamentale monde-conscience, qui dure là à peu près de Tertullien jusqu'à Jean-Paul Sartre, et ici commence une nouvelle coupure philosophique fondamentale, où on dirait à peu près ceci, l'univers, il est fondamentalement distribué en fonctionnement d'un côté, où il faut mettre toutes les totalisations cérébrales déjà, et puis de la présence, la présence-absence. Et le monde saisi ainsi est tendresse. Il n'y a sans doute pas une œuvre plus tendre dans toute la littérature que Molloy. C'est, comme toujours, des personnages qui sont brinque-ballants, quasiment séniles, pour lesquels l'environnement n'a aucune cohésion, aucune utilité, aucune signification déterminable, mais où, pour autant, tout devient élément de tendresse. Et c'est bien ce qu'il entend, ce que Krapps, le vieux Krapps, entend sur sa bande enregistrée là-bas, je crois il y a une trentaine d'années, mon visage dans ses seins et ma main sur elle, nous restions là couchés sans remuer. Ils sont dans la barque qui a quitté le rivage. Mais sous nous, tout remuait. C'est bien la présence pure. Et nous remuait, doucement, de haut en bas et d'un côté à l'autre. Une pause. Note la pause. Parce que les silences vont devenir très importants. Et le silence de la bande magnétique n'est pas le néant. Il y a un grésillement de la bande. Passé minuit, jamais entendu pareil silence. La Terre pourrait être inhabitée. De nouveau, donc, c'est le désespoir. Mais non, elle pourrait être inhabitée. Donc, c'est l'absence pure qui devient la présence pure. Et puis, non, Krapf, maintenant, débranche l'appareil, ramène la bande en arrière, rebranche l'appareil. Le haut du lac avec la barre. Nager près de la rive, puis pousser la barque au large et laisser aller à la dérive. Elle était couchée sur les planches du fond, les mains sous la tête et les yeux fermés. Soleil flamboyant, un brin de brise, l'eau un peu clapoteuse comme je l'aime. J'ai remarqué une égratignure sur sa cuisse. Oui, les toutes petites choses. J'ai remarqué une égratignure sur sa cuisse, la chose totalement insignifiante. Elle lui est demandé comment elle se l'était faite, et toujours aussi insignifiant, mais toujours aussi tendre, ou toujours aussi présent-absent. En cueillant des groseilles à maquereau, m'a-t-elle répondu. J'ai dit encore que ça me semblait sans espoir, et pas la peine de continuer, et elle a fait oui sans ouvrir les yeux. Je lui ai demandé de me regarder après quelques instants. Après quelques instants, elle l'a fait, mais les yeux comme des fentes à cause du soleil. Je me suis penché sur elle pour qu'ils soient dans l'ombre, et ils se sont ouverts, m'ont laissé entrer. Nous dérivions parmi les roseaux, et la barque s'est coincée, comme il se pliait, avec un soupir, devant la proue. Je me suis coulé sur elle, mon visage dans ses seins et ma main sur elle. Nous restions là, couchés, sans remuer, mais sous nous, tout remuait et nous remuait doucement, de haut en bas et d'un côté à l'autre. Car bien entendu, les textes reviennent. Ils reviennent comme les textes qui font notre moi, qui font notre cerveau et notre moi. Alors bien sûr, et ça c'est Beckett, tout d'un coup, Krapf qui écoute ça, se révolte. Tout d'un coup, il est à 30 ans de distance, il est quasiment impuissant, peut-on imaginer. Donc tout ça lui paraît complètement idiot. Tout est idiot d'ailleurs. Parce que bon, ce qui a été idiot, c'est qu'à ce moment-là, il a lâché la femme, etc. Puis enfin, en général, l'amour maintenant. Viens d'écouter ce pauvre petit crétin pour qui je me prenais il y a 30 ans. Difficile de croire que j'ai jamais été con à ce point-là. Ça au moins, c'est fini, Dieu merci. Les yeux qu'elle avait. Oui, bien sûr. Mais il va remettre la bande. Il va réécouter. Et il va réécouter ce que nous venions de dire en une remurmuration sans fin. Et qui est cette présence pure sous la barque. Cette espèce de clapotis à peine sensible. Comme le grésillement de la bande magnétique. Comme le... Rien des étoiles senti comme une sorte de musique des sphères. C'est un Irlandais de Dublin. Il est peut-être utile de le faire remarquer, dans certains cas, je ne dis pas du tout dans Melois, mais par exemple ici, dans la dernière banque, il y a une certaine déperdition du texte français par rapport au texte anglais. Hein, si je lis en français, le jour où tout mon labeur sera éteint et où je n'aurai peut-être plus aucun souvenir, dit-on en français, ni bon ni mauvais, de ce miracle. En anglais, c'est « Against the day when my work will be done and perhaps my place left in my memory ». On sent bien à quel point, dans le texte anglais, la bande, qui est une mémoire, illustre les mécanismes de la mémoire qu'est le cerveau. In my memory, warm or cold, for the miracle that. Donc, il faut bien comprendre Il peut y avoir du suicide chez Beckett. Mais ce suicide même est alors un suicide positif, un suicide qui ne supprime pas la présence absente. Il y a d'ailleurs déjà eu souvent des suicides positifs dans l'histoire, qu'on songe aux Romains. Marguerite Duras est un autre témoin capital de la capacité créatrice des médias, de la radio et du cinéma. Elle est pour nous très importante parce que dans toute cette histoire de la littérature que nous avons parcourue, nous n'avons quasiment pas rencontré de femmes de première grandeur. On pourrait dire que Madame de Lafayette a fait une œuvre, en jouant sur les mots, elle n'a pas peut-être fait vraiment une œuvre, comme ensemble de créations littéraires. Ce n'est pas le cas de la littérature anglaise, on connaît bien sûr les sœurs Brontë, on connaît Virginia Woolf, et l'énorme, l'extraordinaire, l'immense Gertrude Stein, si importante pour la période que nous sommes en train de parcourir, puisqu'elle a très souvent fait en 1915-1920, des choses que d'autres feront en 50-55. Alors Duras va justement représenter la femme au sens le plus intensément féminin qu'il soit possible. Alors qu'est-ce que c'est, somme toute, dans l'opposition au masculin, entre guillemets, que le féminin, entre guillemets? Ah, bien certainement, c'est d'abord anatomiquement un corps qui est plus pénétré que pénétrant, un corps plus enveloppant, un corps qui est davantage un lieu. D'autre part, cérébralement, c'est une physiologie où l'orgasme a, semble-t-il, plus d'extension que chez l'homme. Au lieu d'activer un centre cérébral, il en active, semble-t-il, deux ou trois. C'est aussi un cerveau où le corps calleux n'a pas la même disposition que chez l'homme. Et pour illustrer, ça tient peut-être à ces dispositions du corps calleux, les capacités de récupération en cas de perte du langage, lorsqu'il y a un traumatisme du cerveau, sont beaucoup plus grandes que chez l'être humain masculin. Ce qui semble indiquer, pour employer un mot qui n'est pas scientifique du tout, une disposition beaucoup plus fluide à l'égard de l'environnement. Eh bien, c'est tout ça que Marguerite Duras va exploiter à l'extrême, d'abord à travers la voix radiophonique. La voix radiophonique est une voix à la fois présente et absente. Et elle va justement pousser la chose à l'extrême en faisant souvent jouer des acteurs, non pas qui sont en train de parler, mais qui jouent sans parler en écoutant leur propre voix préenregistrée. Mais c'est peut-être du point de vue du cinéma que son intervention est la plus bouleversante. Car on pourrait l'oublier, le cinéma c'est d'abord des photons. Et des photons qui sont en mouvance sur la pellicule. Je n'ai pas dit en mouvement. Le mouvement est quelque chose de déterminé, c'est quelque chose qui va vers un certain but. Le merveilleux mot français « mouvance », la mouvance d'un fief, est quelque chose de beaucoup plus large. Eh bien, justement, elle va utiliser le cinéma comme prise, comme intususception, je m'excuse du mot un peu savant, mais qui existe. Prise, donc, recueillement en soi, d'un environnement qui n'est pas fait d'objets, ni d'être singulier, ni d'action finalisée, mais de ces mouvances, elles aussi évidemment disponibles à la présence-absence, presque distincte des fonctionnements qui la soutiennent. Au fond, elle crée une caméra utérus, et même à proprement parler, une caméra vagin, qui n'est bouchée ni à l'entrée ni à la sortie. Elle n'aime pas la route. La route part d'un endroit et va à un autre endroit. Ce qu'elle aime, c'est l'autoroute. C'est quelque chose qui ne part pas de quelque part, qui ne va pas quelque part, qui est une espèce d'immense vagin généralisé. Tout ça donnant lieu à Un rap mystique? Non. Rap serait peut-être un mot trop violent. Mais un ravissement, là, ça veut dire la même chose que rap d'un point de vue de l'étymologie, mais comme le mot est allongé, il donne quelque chose qui est plus plan, qui est plus proche du quotidien. Et en effet, il s'agit bien d'un rapt quotidien, ou plutôt d'un ravissement quotidien. C'est là-dessus qu'elle insiste quand elle parle d'Anne-Marie Streeter, le personnage central d'India Song. Si vous voulez, elle a incarné pour moi longtemps une sorte de double pouvoir. Un pouvoir de mort et un pouvoir quotidien. Le pouvoir de mort, c'est l'extrême. Mais en même temps, il y a cette quotidienneté. Elle élevait des enfants. Elle était la femme de l'administrateur général. Elle jouait au tennis. Elle recevait. Elle se promenait, etc. Et puis, elle recelait en elle ce pouvoir de mort. De prodiguer la mort, de la provoquer. À ce moment-là, on avait appris qu'un jeune homme s'était suicidé, simplement, j'allais dire, de l'avoir vu. Quelquefois, je me dis que j'ai écrit à cause d'elle. Et donc, c'est l'entourement, l'enveloppement comme tel qui importe. Pas la successivité logique des actions. On croit toujours qu'il faut partir d'une histoire pour faire du cinéma. Ce n'est pas vrai, dit-elle. Pour Nathalie Granger, je suis complètement parti de la maison où ça se passait. Vraiment, tout à fait. J'avais la maison dans la tête, constamment, constamment. Et puis ensuite, une histoire est venue s'y loger, voyez. Mais la maison, c'était déjà du cinéma. Et bien sûr, une ville peut jouer le rôle de maison. Pour Anne-Marie Streeter, dit Marguerite Duras, j'ai dit qu'elle était Calcutta, je la vois comme Calcutta. Elle devient Calcutta. Il y a un double glissement. Calcutta va vers la forme d'Anne-Marie Streeter et elle va vers la forme de Calcutta. Et pour moi, à la fin du film, elles ne font qu'un. Comme chacun le sait, Marguerite Duras est faite de silence. Est-ce qu'il y a alors moyen de faire sentir quand même le phénomène littéraire chez elle, en quelques lignes? Eh bien, je vous propose ceci. C'est Alain Resnais qui, pour Hiroshima, mon amour, lui demande quelques lignes de description complémentaires à propos de l'héroïne qui est dans la cave. Des enfants de l'extérieur ont fait tomber une bille. Est-ce qu'elle va rendre la bille aux enfants? J'ai encore crié. On va voir que tous les mots portent, je crois. Et ce jour-là, j'ai entendu un cri. C'est bien cette présence absente, cette distance interne. La dernière fois que l'on m'a mise dans la cave, elle est arrivée vers moi. Et c'est elle qui met entre parenthèses la bille. Donc elle respecte exactement l'ordre du fantasme. Il y a une arrivée, et ce n'est qu'après que ça devient une bille. Elle est arrivée vers moi, la bille. En prenant tout son temps, comme un événement. À l'intérieur, coulaient des rivières colorées, très vives. C'est la bille ici qui est la maison, ou Calcutta. L'été était à l'intérieur de la bille. De l'été, elle avait aussi la chaleur. Je savais déjà qu'on ne devait plus manger les choses. Manger n'importe quoi, les prisonnières donc, dans cette cave. Ni les murs, ni le sang de ses mains, ni les murs. Je l'ai regardé avec gentillesse, je l'ai posé contre ma bouche, et sans mordre. Toujours la même relation d'enveloppement évasif. Tant de rondeur, tant de perfection, posait un insoluble problème. Peut-être vais-je la casser. Je la jette. Mais elle rebondit vers ma main. Je recommence. Elle ne revient pas. Elle se perd. Quand elle se perd, quelque chose recommence que je reconnais.
la peur revient. Recommence, reconnaît, revient. Une bille ne peut pas mourir. Je me souviens, je cherche, je la retrouve. Cris des enfants. J'ai encore crié, cris des enfants. La bille est dans ma main. Cris, bille. Elle est aux enfants. Non, ils ne l'auront plus. J'ouvre la main. Elle est là, captive. Je la rends aux enfants.
Rob Grier va employer le cinéma d'une autre façon comme moyen de création littéraire. Pour comprendre, il faut faire une petite expérience. Il faut rapprocher les deux mains et, avec le pouce et les autres doigts, former un cadre. Par exemple, un cadre un peu rectangulaire. Et promener alors gentiment, regarder donc à travers ce cadre, et promener très lentement ce cadre ainsi ouvert sur l'environnement. Et qu'est-ce que vous allez voir? C'est que, à peu près toutes les secondes, 2 secondes, 3 secondes, il se produit un déclic dans la vision. C'est-à-dire que, à cause des 4 angles qui se sont déplacés, le spectacle qui arrive est chaque fois neuf. C'est le même, mais il a glissé. Nous sommes entraînés dans les glissements progressifs du plaisir. Donc, j'insiste, habituellement on croit que le cadrage en cinéma, c'est d'avoir d'abord un spectacle, et puis on va cadrer le spectacle qu'on a d'abord vu. Non, si on fait l'expérience que j'ai indiquée, c'est exactement l'inverse, on a un cadre. À travers ce cadre, il y a des photons qui passent, et c'est le déplacement du cadre, ou éventuellement le déplacement très lent de l'objet devant un cadre immobile, mais chez Rob Grier, c'est généralement le cadre qui bouge et qui va créer une fascination à cause à la fois de la liaison et de la surprise, d'une surprise immensément lente, le long de la chevelure défaite. On dirait que la plume, la phrase descend le long de la chevelure exactement comme pourrait faire le cadre dont je viens de parler. C'est dans la jalousie, le long de la chevelure défaite. La brosse descend avec un bruit léger qui tient du souffle et du crépitement. D'où une grande, extrême égalité des syllabes. À peine arrivée en bas, très vite, elle remonte vers la tête et elle frappe de toute la surface des poils avant de glisser de rechef sur la masse noire, ovale couleur d'os dont le manche, assez court, disparaît presque entièrement dans la main qui l'en serre avec fermeté.
Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, voilà Kafka, lui aussi binairement insistant, mais de façon plus granuleuse, moins lisse.
Avec cette situation romanesque entièrement neuve, c'est qu'on ne va pas décrire des actes de jalousie, on ne va pas décrire un jaloux, on ne va pas non plus décrire ce caractère qu'est la jalousie, mais on va faire que le lecteur se mette à fonctionner comme un jaloux. On va imprimer dans une action directe sur son cerveau. Valérie, vous vous en souvenez, nous disait que la poésie était une action directe, par une action directe sur le cerveau, un rythme, une rythmique de jaloux. Et donc on peut penser à travers le titre qu'il s'agit à la fois de la jalousie au sens courant, de la jalousie par exemple autour d'une femme, et de cette autre jalousie que sont les persiennes, qui rejoignent bien le cadre. Quand le monde est regardé comme ça, il est, disions-nous, thème de plaisir, mais il est aussi thème d'action. Et peut-être qu'à cet égard, rien n'est plus exemplaire que Le Voyeur, pris après 2 ou 3 paragraphes. On lui avait souvent raconté cette histoire. Suivez tous les iambes. Lorsqu'il était tout enfant, 25 ou 30 années peut-être auparavant, il possédait une grande boîte en carton, une ancienne boîte à chaussures où il collectionnait des morceaux de ficelle. Il ne conservait pas n'importe quoi, ne voulant ni des échantillons de qualité inférieure, ni de ceux qui étaient trop abîmés par l'usage, avachis ou effilochés. Il rejetait aussi les fragments trop courts pour pouvoir jamais servir à quoi que ce soit d'intéressant. Il vient d'apercevoir une corde au sol. Celui-ci aurait à coup sûr fait la serre. Regardez toujours à travers notre fameux cadre que nous nous imposons depuis le début, le cadre mouvant. C'était une fine cordelette de chanvre, en parfait état, soigneusement roulée en forme de 8, avec quelques spires supplémentaires serrées à l'étranglement. Elle devait avoir une bonne longueur, 1 mètre au moins, ou même 2. Quelqu'un l'avait sans doute laissé tomber là par mégarde, après l'avoir mise en pelote en vue d'une utilisation future, ou bien d'une collection. Vous avez déjà deviné? Je continue encore un instant, je crois que vous allez deviner tout à fait. Mathias se baissa pour la ramasser. En se relevant, il aperçut, à quelques pas sur la droite, une petite fille de 7 ou 8 ans qui le dévisageait avec sérieux, ses grands yeux tranquillement posés sur lui. Il esquissa un demi-sourire, mais elle ne prit pas la peine de le lui rendre, et ce n'est qu'au bout de plusieurs secondes qu'il vit ses prunelles glisser vers la pelote de ficelle qu'il tenait dans la main à la hauteur de sa poitrine. Il ne fut pas déçu par un examen plus minutieux. C'était une belle prise.
Nous savons maintenant ce que le voyeur va faire, et même sans doute qu'il le fera dans un blanc du récit.
La petite fille est déjà étranglée.
Quant à la ficelle, c'est la phrase de Rob Grier lui-même, brillante sans excès, tordue avec finesse et régularité, manifestement très solide, avec quelques spires à l'étranglement,
capable de provoquer ces glissements progressifs du plaisir qui sont son sujet langagier.
Sinon, nous sommes toujours bien dans ce même accent sur la pure présence. Ce n'est pas celle de Beckett, mais c'est quand même quelque chose où le fonctionnement n'est plus vectoriel. Et il le note à propos du cinéma.
Parlant de l'année dernière à Marienbad, Rob Grier signale que la caractéristique essentielle de l'image est sa présence.
On remarque donc à quel point tout est égal,
strictement rien dans la phonie ne peut dépasser ni au-dessus ni en dessous. Proust avait préludé à cette égalité, mais n'a pas du tout cette égalité syllabique extrême qui tient au déplacement continu et impitoyable du cadre.